Souvenir FM.
Il est midi.
L'invité du 12-13 de Souvenir FM.
Souvenir FM. Bonjour à toutes et à tous, c'est le moment de votre émission préférée, l'invité du 12-13. Un moment privilégié d'échange et de découverte des acteurs locaux, ceux qui font vivre votre territoire au quotidien. Et aujourd'hui, nous accueillons Claude Larré qui vient nous parler de l'aéromodélisme Club Tirocé. Bonjour Claude, comment allez-vous ?
Mais écoutez, merci de me recevoir.
Très bien, on est content. On va partager votre passion qui est visible. On a discuté hors antenne pas mal. Déjà, il y a pas mal de choses à dire, ça va être chouette. Claude est là pour nous parler de l'aéromodélisme Club Tirocé. Là, c'est des choses qui volent, on a bien compris. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre association et de son historique ?
Ben avec plaisir. Bon, le club existe depuis, fédéralement parlant, juin 1989. Il est agréé donc auprès de la Fédération française d'aéromodélisme. Entre parenthèses, nous faisons partie également de la Ligue d'Aquitaine d'aéromodélisme et j'ai le plaisir d'être aussi le président du comité départemental d'aéromodélisme. J'ai été président du club de Tirocé pendant quelques années, de 2008 à 2015. Et puis mon ami Guy m'a remplacé parce que je ne dirais pas que ça pèse, mais j'avais quand même des fonctions au point de vue régional qui me prenaient pas mal de temps. Donc nous gérons, on va dire, ce club à deux depuis 2015 et c'est un club qui est aujourd'hui classé, pour vous dire, en 2024, troisième club de France sur 856 clubs.
Ouais, c'est pas mal.
Voilà.
Pas mal du tout.
Et ce n'est pas la première fois. Mmh. Nous avons tenu la dragée haute à tous ces clubs de France, notre petit département du fond des Landes, je n'oserais pas dire d'autres expressions.
On sent la fierté de Claude.
Et nous avons été trois fois premier, second, troisième. Donc, et nous avons l'intention l'an prochain de battre le fer et pour reprendre la première place que nous mériterions. Mmh. Et tout simplement à travers, non pas le nombre de gens qui composent le club, mais avec les activités. Oui, c'est surtout la diversité de la qualification des gens qui sont dedans. Nous avons aujourd'hui 30 cadets. Nous sommes un des rares clubs d'aéromodélisme à avoir autant de jeunes. Alors c'est surprenant. Bien, je vous dirais non, c'est pas surprenant parce que nous participons à deux forums associatifs, à Saint-Jean-de-Marsac et Saint-Vincent-Tyrosse. Oui. Et nous recevons 9 centres agréés, 9 centres de loisirs avec des jeunes. Alors c'est un coup de rafale de 8, 10, 12, 15, 16 gamins qui viennent s'initier à l'aéromodélisme. Et peu ou prou, il en reste toujours un ou deux qui, dans le coin de sa tête, un jour revient et dit « Ah, ça m'avait plu !»
Le virus.
Voilà, est-ce que je pourrais réessayer ? Alors, bien, on les teste de nouveau sur simulateur. On en a parlé tout à l'heure, avec des simulateurs qui sont spécifiques à l'aéromodélisme. Alors, ça n'est pas Flight Simulator, qui est tout à fait étranger à ce que nous proposons à nos gamins.
C'est pas le même style, oui.
Voilà, parce que là, ils disposent d'un poste de commande avec des deux manches traditionnelles. Savoir qu'un avion, il y a ce qu'on appelle un manche à balai entre les jambes du pilote. Et droite, gauche, c'est les ailerons. Devant, en poussant et en tirant, on monte ou on descend. Il faut éviter de trop descendre, parce qu'à un moment donné, ça s'arrête vite.
Et oui, pareil, oui.
et puis, avec les pieds, dans un avion grand, vous avez deux palettes qui vous permettent de vous diriger gauche et droite, que nous, ça se passe sur une main. Soit la main gauche, soit la main droite, en fonction du mode que l'on emploie pour piloter, mode 1 ou mode 2, mais ça, il faut descendre dans la technique pour en parler plus en détail. Mais ces gamins, eh bien, aujourd'hui, on en a quand même qui sont bien évolués, on leur fait passer des ailes, des brevets, des qualifications de pilote, parce qu'on ne peut pas voler en public n'importe comment, et pas parce qu'on a... On a de l'argent et qu'on a acheté un modèle réduit, qu'on peut s'exprimer librement dans n'importe quel espace. Il y a une réglementation qui est relativement sévère et c'est normal.
Oui, on reviendra sur ça, oui, c'est sûr.
Parce qu'il ne faut pas oublier que quand on fait le calcul des masses, ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais ce sont des mathématiciens célèbres comme Pascal et autres. Vous mettez la formule 1,5 de MV2, vous prenez un avion de 2 kg, vous divisez, ça fait 1 kg, mais multiplié par 100 km/h avec les vitesses au carré.
C'est la formule d'énergie cinétique.
Oui, tout à fait. Ben, je vous dis, quand ça vous arrive sur le coin de l'œil, ça fait mal, ça peut faire très mal. Et c'est à cette occasion, d'ailleurs, que je développe un stage de sécurité tous les ans, au mois de février, généralement, pour justement attaquer la saison dans de bonnes conditions et éviter que nos gamins, et même les moins gamins, parce que souvent, ceux qui ont 90 ans... Ils ont besoin que l'on rappelle qu'il y a des consignes de sécurité à respecter.
Comme pour la voiture.
Mais voilà. Et il faut pas oublier que nous avons devant un avion, généralement, une hélice. Et bien, lorsque vous voulez faire du pâté, vous mettez un bon morceau de...
Ah, j'ai l'image dans la tête, c'est pas bon ça.
On va dire un bon morceau de cochon ou de chevreuil, ce que vous voulez.
Ouais, ouais, ouais.
Et si c'est pas contre vos mains, voilà. Ça peut faire la même chose.
Aïe, aïe.
Ça peut être même très grave, jusqu'à des amputations, et ça va même jusqu'au décès de personnes qui ont été percutées par une machine, même souvent par leur propre machine.
Mmh.
Voilà. Et alors, ces stages, justement, permettent, mettons, au club de Tyros, eh bien, Jean-Philippe, de pouvoir comptabiliser aujourd'hui 12 années sans accident.
Oui.
Alors, je dis bien sans accident corporel.
Oui, oui,
parce qu'il est évident que des fois, il arrive qu'un appareil échappe, on va dire, à la commande électronique de son pilote et termine entre les taupinières ou alors au bout d'un pain.
Oui, j'imagine que ça doit arriver. Oui. Et est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vous, Claude? Qu'est-ce que vous avez fait avant d'en être là? Bon, vous êtes retraité, hein, c'est pas un secret. Qu'est-ce qui vous a amené jusqu'ici?
Alors, tout simplement, c'est que j'ai eu la chance inouïe un jour de tomber sur un système D qui était à mon grand-père. Et dessus, il y avait un plan de planeur, vol libre. Et il m'a aidé. On avait une usine à côté de chez nous qui faisait des cerclages des camemberts. Et lui, avec sa petite raboteuse, il m'a fabriqué des litos de 3 mm par 3, 4 par 4.
Des trucs très légers, quoi.
Voilà, tout un peu plié. J'ai, avec ce qu'on appelle un coupe-chou, c'est-à-dire les rasoirs à l'ancienne qu'on servait, il m'a aidé à découper toutes les pièces de mon planeur. On a fabriqué de la colle avec des pieds de bœuf, des arêtes de poisson, de l'amidon.
Ah oui, là c'est à l'ancienne. Oui, oui.
Ah oui, oui. Et bien, je vous dis, quand on faisait de la colle, quand on la faisait chauffer, on le sentait dans tout le quartier.
Ah ben oui, j'imagine.
Mais bref. Oui. Mais ce planeur, il a duré 2 ans. Et ensuite, bon, la vie étant, mes études, l'armée, et au retour de l'armée, je suis rentré dans un métier que beaucoup de monde craignent et connaissent, c'est la gendarmerie.
Aïe, aïe.
Voilà, non. Et j'avais un beau-frère que j'hébergeais qui savait, on va dire, qui avait beaucoup de temps libre. J'ai dit un jour, écoute, fais quelque chose, parce que sinon je crois que je vais pas pouvoir te garder chez moi.
Et oui.
Parce que j'avais le plaisir de l'héberger. Et il est revenu avec une boîte d'avion. Eh bien, lui, il a commencé. Quelques années après, il a arrêté. Moi, j'ai continué. Mmh. Le microbe a été tellement incrusté que j'ai évolué assez vite. Mmh. J'ai participé au championnat de France 1974 comme mécanicien avec un pilote exceptionnel à Donon-les-Bains. Mmh. Et de là, bon, le virus était pris, j'étais perfusé, terminé. Et j'ai monté même un club. Après, j'ai plusieurs autres sites où je suis passé après en radiocommande.
Mmh.
Et après, j'ai évolué jusqu'à aujourd'hui où maintenant je pilote du planeur, de l'avion à moteur, du réacteur. On a des avions à réaction. C'est pour vous donner, c'est quand même le plus complexe. Et un réacteur modèle réduit est exactement le fonctionnement d'un réacteur grandeur, sauf qu'il n'y a pas plusieurs compresseurs, il n'y a pas plusieurs étages de libération de la puissance, mais ça fonctionne de la même façon.
D'accord. Eh bien, je vois aussi que vous êtes labellisé handicap, l'association. C'est une des seules, d'ailleurs, d'après ce que j'ai compris.
Bien, oui, Jean-Philippe. Nous sommes le seul club de Nouvelle-Aquitaine. Vous vous rendez compte, sur 12 départements, nous sommes le seul club labellisé handicap. Ah. Alors, j'y ai tenu au départ, d'ailleurs, quand je suis arrivé dans ce club à Tyros, en 2008. Eh bien, pourquoi? Parce que je crois que c'est une population qui mérite que l'on approche déjà leur façon de vivre, on va dire, et pouvoir leur permettre éventuellement de prendre du plaisir. Je suis un des rares moniteurs à être habilité à leur procurer, justement leur faire de l'initiation à modèle réduit. Lorsque j'en recevais 4, 5, 6 dans une après-midi, je vais vous dire, le soir, je n'avais pas besoin de violon pour aller me mettre au lit.
Et oui, parce que ça, oui, c'est prenant, il faut être très, très vigilant.
Et je comprends, mais d'une façon inouïe, l'encadrement qu'ils ont, le temps, la patience, tous les éléments humains qu'ils doivent mettre à leur disposition, sachant que ce sont des gens qui sont sur des fauteuils roulants électriques, bien souvent, ou mettons, j'ai même fait l'initiation à un sourd complet, sourd et muet, avec son moniteur en face de moi. Moi, je parlais, le moniteur traduisait en signe ce que l'élève devait faire.
D'accord.
Et pour vous donner une autre idée, j'avais donné deux éléments de commande, ça, les ailerons et la profondeur. Et je lui disais, monte, et à droite, aileron. Et le moniteur traduisait en signe, et tout d'un coup, il y avait l'élève qui faisait... Il se rendait compte que c'était lui qui pilotait l'avion.
Oui.
Ben, je vais vous dire, ça vous étripe, excusez-moi du mot.
Oui, je comprends. Oui. En plus, là, avec l'intermédiaire, en plus, un interprète, ça fait du temps de réponse un peu plus long. Donc, il y a intérêt à bien anticiper les commandes. Là.
Tout à fait. Mais on est en double commande. On est un des rares clubs à faire ce qu'on appelle la double commande simultanée, mixée. Ce qui fait qu'on a très, très peu de casse au point de vue écolage. Mettons les avions écoles. je pense à l'un des deux, et bien ça fait plus de 6 ans qu'il est en vol. Bon, il y a une maintenance à faire, régulière, voir l'état de la machine, mais on a plusieurs ensembles, on a 7 ensembles de pilotage, et ça va jusqu'au niveau championnat de France, où on peut amener un gamin qui évolue et qui sait déjà saisir les mouvements de masse d'une machine, on peut l'amener au niveau championnat de France. Et je compte dans mes effectifs, depuis que je suis formateur au club de Tyros, un gamin que j'ai connu, il a 29 ans, aujourd'hui il a 23 ans, il est ingénieur maintenance électronique et mécanique sur avion réel, il traite un Airbus 320, un Boeing 537, un autre type d'avion dans une compagnie aérienne low cost, et je vais vous dire, j'en suis très fier, très très fier.
Ouais, c'est mieux, c'est bien, il a démarré sur les petits et a fini sur les grands.
Ah, c'était les tout petits, c'était un Kalmato, si je me souviens bien, de couleur bleue, qui est une machine qui fait 1,60 m d'envergure avec un petit moteur de 5 cm cube. Et ben, le gamin aujourd'hui, lui, il est sur des Airbus, il a changé d'envergure et de type de moteur.
Oui, c'est ça. Ouais, très bien, tout ça c'est très intéressant, ça va être le moment de faire notre première pause et on se retrouve tout de suite après. Nous voilà de retour, c'était The Motors avec Airport, évidemment un petit clin d'œil qu'on ne pouvait pas louper quand même. Alors... Des choses qui volent, vous en avez, hein, mais de différents types, avec des noms différents et tout. Et on va dire un petit peu comment ça fonctionne. On ne va pas rentrer dans le détail à fond, mais bon, parce qu'on a parlé tout à l'heure d'avions à hélice, il y en a d'autres qui sont à réaction. Et qu'est-ce que c'est comme moteur? Qu'est-ce qu'on met dedans pour que ça tourne?
Nous avons tout type d'appareils volants. Ce sont des aéronefs. Donc on va partir du plus simple, c'est-à-dire le planeur. Le planeur pur et dur, où il n'y a pas de moteur. Ouais. Alors comment est-ce qu'on le met en l'air? Mais il y a en principe plusieurs méthodes. Il y a le lancer-main, tout simplement, ce qui est qualifié au niveau fédéral en F3K. Il n'y a pas de moteur du tout. Et le gamin qui le prend, ça se lance comme un disque en le prenant par le bout de l'aile et il l'envoie balancer à 60, 80, 100 mètres d'altitude. Et là, il va à la pêche aux bulles, c'est-à-dire tout l'air chaud montant. Après, on a le planeur que l'on met en plaine, que l'on remorque comme un vrai planeur. Il y a un crochet de remorquage. On le tire avec un avion à moteur et on le met à une altitude lambda, on va dire... logiquement, ça s'arrête à 150 mètres, mais ça peut être beaucoup plus haut, ça peut être 300, 400 mètres facilement d'altitude. Après, vous avez le motoplaneur électrique, ou alors à la pente aussi, ou à la pente, carrément, on lance la machine dans le trou, et on va aller choper tous les courants ascendants, à savoir la brise de montagne, qui monte naturellement contre les pentes. Il faut bien que le vent passe quelque part, donc il va monter. Et après, nous, comme les oiseaux savent l'exploiter, vous avez les thermiques. Il y a rien qu'à regarder faire les buses ou tout ce qui est volatile.
Qui tourne.
Voilà, les oiseaux de mer, les goélands ou les mouettes qui sont sur le bord de mer, qui ne battent jamais un coup d'aile sur des kilomètres. Mettons une frégate de mer qui était capable de faire des centaines de kilomètres sans battre un coup d'aile en profitant uniquement de l'aérodynamique qui se trouve dans la crête des vagues. Et puis après, on va attaquer dans tout ce qui est... Alors, le motoplaneur peut être... Bon, il y en a eu certains avec des moteurs thermiques, c'était l'ancienne mode, on va dire. Il y en a maintenant avec des moteurs électriques, c'est le plus courant, donc un petit moteur électrique qui est à l'avant, généralement, ou alors sur un pylône qui se rétracte au-dessus de la cabine et qui est entraîné avec un petit moteur électrique et des batteries qui sont à l'intérieur de la machine et qu'on peut activer on-off quand on le souhaite. C'est télécommandé. Et donc on le met à l'altitude et après on rentre le moteur ou on replie les pales d'hélice et il vole comme un planeur. Après on va attaquer la série des avions disons à moteur. Alors, moteur électrique, bon, simple, moteur, il y a un ou plusieurs moteurs, alimentés par des batteries au lithium, généralement, lithium polymère, lithium FE. Et il faut faire attention parce qu'il y a quand même un certain danger par rapport à ces batteries qui peuvent faire de gros problèmes jusqu'à l'incendie. Et après, ces avions électriques, ça évolue comme un avion réel, c'est très silencieux. Alors, il y a certains clubs qui ne peuvent voler d'ailleurs qu'en électrique parce que justement, l'environnement, il faut y faire attention. Et ils ont eu, certains clubs ont dû fermer parce que du fait des moteurs thermiques et des échappements, il y a eu trop de bruit. L'environnement a été assez sévère pour les obliger à passer à ce type de technique. Après, dans le thermique, alors ça va du tout petit 0,3 cm cube. Je ne sais pas si vous imaginez, Philippe.
C'est le diacoudre, là.
Même pas. C'est le cylindre qui est comme un diacoudre. Mais la cylindrée, c'est 0,3 cm cube. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, ça fait le bout d'une tête d'allumette.
C'est tout petit,
Voilà, c'est le plus petit moteur. C'était un moteur américain qui marchait avec de l'éther. Après, on passe sur des cylindrées plus courantes de 1 cm cube 5 à l'époque. Maintenant, c'est plutôt du 5 cm cube, 10 cm cube, 2 temps. 4 temps. Après, vous avez du bicylindre à plat, bicylindre en ligne, tricylindre. Et après, on passe sur des moteurs beaucoup plus puissants qui sont à essence, comme on disait tout à l'heure, avec des mélanges comme le, c'est du deux-temps, donc avec essence 95 et de l'huile, et de très bonne qualité. Et on peut aller jusqu'à des puissances assez importantes, à savoir, j'ai eu le plaisir d'avoir dans les mains un 4 cylindres Lindbach, comme je disais tout à l'heure, de 567 m³. Je veux dire, c'est un moteur d'avion.
C'est un moteur d'avion.
Et je vous ai donné une carte de visite, que c'est un avion que je détiens, que je suis propriétaire, que j'ai fabriqué entièrement à la main, qui a 50 ans au jeu cette année. C'est pas moi qui l'ai fabriqué à l'initial, mais je l'ai refabriqué, on va dire, et il a au-dessus un 165 m³, 4 cylindres à plat, qui tourne, on dirait un V8 américain, c'est fabuleux. Une fois qu'on a passé les moteurs thermiques, on a des moteurs, disons, multicylindres, donc 3 cylindres, 5 cylindres, type radial, comme les avions anciens, et ça va jusqu'à des moteurs de 5 cylindres, je vais vous dire, c'est très très puissant, très coupleux. Mais ça a aussi un certain prix. Et ensuite, nous allons passer à la réaction. Et là, on attaque un domaine qui est assez, on va dire, c'est une des finalités de l'aéromodélisme. Ça n'est pas parce qu'on a un réacteur qu'on est meilleur que les autres. Simplement, c'est que c'est une catégorie d'avions qui est assez particulière. Il faut être déjà pilote confirmé. Parce que ça prend des volumes de vol assez importants, ça engage des capitaux, un investissement aussi conséquent. Le moindre avion, c'est entre 5 000 et on va dire 15 000 euros dans la moyenne actuelle.
Ça va très vite aussi, je suppose, beaucoup plus vite.
Et les vitesses sont adaptées à la machine. On va dire un petit avion à réaction, c'est 150-180 km/h. Mais la moyenne normale actuelle, c'est entre 300 et 400 km/h.
Oui, c'est énorme.
Et ça peut aller beaucoup plus vite. Le record mondial est actuellement aux environs de 780 km/h. Sur un modèle réduit, je ne sais pas si vous imaginez, ça fait presque de 200 mètres à la seconde.
On n'est pas loin du son, qui est à 300, 360.
On est pas mal. On est pas mal. Mais je pense qu'il faut se raisonner et rester dans le modèle réduit, parce qu'il ne faut pas oublier que dans l'aéronautique, il faut quand même avoir des connaissances technologiques assez pointues. Et il ne faut pas oublier que ces appareils, il faut commander les ailerons, il faut commander la dérive, la profondeur. Ça implique des notions de force, de puissance dans les servomoteurs, dans l'alimentation électrique de ces appareils. Et donc, il faut rester, je pense, dans le raisonnable. C'est le mieux pour justement continuer à vivre. Parce qu'il ne faut pas oublier que si un modèle réduit vous percute, ça peut être très grave.
Oui, bien sûr. Voilà. Alors, de toute façon, après la seconde pause qu'on va bientôt faire, on aura l'occasion de parler de l'aspect formation qui est très important, de la même manière que dans l'aéronautique au sens large. Voilà, donc ça, on fait pas voler un machin comme ça, quoi. Il y a des règles et des choses, et ça fait partie de votre travail, entre guillemets, de former les gens à ça. Et on va en parler tout de suite après cette deuxième pause. On se retrouve juste après.
Merci.
C'était Monday Morning de notre ami Ben Fern, un petit gars du coin, il nous entend peut-être. Donc on est de retour avec Claude, on a encore des choses à dire, il ne faut pas qu'on oublie. Oui, alors cette partie formation, voilà, encore une fois, quand on vole, on le sait, on entend parler souvent pour les avions de ligne, de guerre, etc. Une formation est lourde, mais dès que ça vole, même les petits, il y a aussi la partie formation est très importante.
Mais tout à fait, elle est même essentielle d'ailleurs. Je déconseille à quiconque, évidemment, Noël est toujours un grand moment dans la vie, surtout pour les enfants. Et on voit dans les supermarchés de la région et ailleurs, et dans les magasins spécialisés en jouets, des modèles réduits en vente et qui sont donc accessibles au grand public, mais qui restent aussi des machines qu'il faut apprendre à piloter. C'est pas comme une trottinette où on met les pieds dessus puis on s'en va sur la route, pas tout à fait n'importe comment, parce qu'il y a aussi une notion d'accident à prendre en compte. Mais le modèle réduit, je pense qu'il y a tous les ans des dizaines et des centaines de machines qui ressortent, qui vont revenir dans les greniers ou dans les caves ou sur les armoires de la chambre à coucher avec un piteux souvenir. Pourquoi ? Parce que le pilote en herbe, il n'a pas appris à piloter et à maîtriser les trois axes. Il ne faut pas oublier qu'en avion, il y en a trois. Il y a longueur, largeur. Tant qu'on est en voiture ou en bateau, on est sur le plancher des vaches. Mais en avion, il y a la troisième. Et la troisième, la marche escalier, des fois, elle peut être aussi bien violente pour la machine que pour celui celui qui va la piloter s'il se percute. Mmh. Voilà. Donc on apprend à piloter. Et pour ce faire, eh bien, on vient rencontrer le club de Saint-Vincent-Tyrosse où il y a une douzaine de moniteurs aujourd'hui.
Voilà.
Et je suis l'un des cadres formateurs. Mmh. J'ai le plaisir d'être très récemment nommé formateur habilité sur le plan national. Mmh. Donc il y a une formation de base qui va se faire très gentiment sur des simulateurs spécifiques, qui va reprendre quasiment le pilotage que qu'on va pratiquer ensuite en piste. Mmh. Et on va commencer avec des machines d'abord très calmes, très cool. Mmh. À savoir, c'est des petits motoplaneurs qui va être lancé à la main, ça décolle pas du sol, mais c'est pas grave, on va le lancer à la main, et quand on va être en l'air, l'essentiel, c'est d'apprendre à coordonner trois éléments que chacun possède, à savoir la vue, l'esprit, il va falloir calculer ce qu'on va faire, et puis également le manuel, les doigts, c'est-à-dire appliquer à ses doigts ce que la vue a vu, et ce que le cerveau va imprimer au mouvement.
C'est ça, oui.
Donc on va coordonner, et bien souvent c'est là que l'on détecte, d'ailleurs c'est une des facultés de l'aéromodélisme, ce qu'on appelle la dyslexie. Mmh. Pourquoi ? Parce qu'on a des gens qui, malheureusement, des jeunes surtout, confondent la droite et la gauche.
Aïe, 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 c'est pas bon là.
Si, on y arrive malgré tout. Oui. Alors, quand on dit à un apprenti, on lui dit à gauche, dans main droite, à gauche, ou main gauche à gauche, c'est la dérive. Et à ce moment-là, on voit l'avion qui part du côté droit, de son côté droit à lui. Il dit non, on me dit l'autre gauche.
L'autre gauche.
Et à ce moment-là, le mouvement c'est inverse, et on revient dans la norme. Mais effectivement, on apprend. Alors évidemment, on apprend avec des machines très cool, après on va passer sur des machines un petit peu plus sophistiquées, à savoir un traîneur. Alors c'est une caisse à voler, c'est carré, c'est un avion. C'est pas joli joli, ça ressemble pas à un Piper, ni à un Cessna, mais c'est un avion. Et ça vole bien, et ça vole surtout d'une façon très simple et très facile. Eh bien, quand on a passé ce stade-là, ensuite on va attaquer les prémices de la voltige avec un Olympus, qui est un avion qui est fait pour faire de la voltige, et on va prendre, suivant un programme qui est déjà établi, il faut savoir que la voltige, elle est codifiée. C'est ce qu'on appelle la voltige Aresti, c'est un colonel espagnol qui a codifié l'ensemble des figures qu'on exécute en vol. Et ça, c'est valable pour les avions grandeur. Il y a un cube de vol. Alors, en avion grandeur, il y a un cube d'un kilomètre. Nous avons moins que ça. Mais il y a, mettons, faire un tonneau, on va aller dans l'axe, on va balancer les ailerons vers la droite, mettons, mais en même temps, lorsqu'on va être sur le dos, on va légèrement pousser sur la profondeur, parce que sinon l'avion va se mettre à descendre sur le dos. Et on va également activer la dérive côté droit ou côté gauche, en fonction du sens où on se trouve, pour que le tonneau se fasse sur une ligne droite parfaite. À la même altitude, avec une stabilité, on va dire, par rapport au sol, qui reste dans la ligne droite. Après, une boucle, c'est simple, c'est l'une des premières figures que l'on veut faire à des pilotes. Pourquoi ? Parce que ça n'implique pratiquement, dans la boucle la plus simple, qu'uniquement la profondeur, à savoir, on va mettre la vitesse à la machine, on va mettre les gaz plein pot, et en face de lui, il y a un poteau de repère. Je vous expliquerai d'ailleurs que le terrain de Tyrosse est bien réalisé pour ça. On va tirer sur la profondeur et on va exécuter un cercle vertical. Donc en haut, en tête, on va passer sur le dos et on va réduire les gaz pour éviter de forcer l'avion lorsqu'il va redescendre. Et on va revenir sur le plan horizontal, l'avion étant en vol positif. Après, vous pouvez manipuler, mettons, faire une remontée verticale, comme si on voulait faire une boucle, mais on reste sur un plan vertical pur, et au bout, on va couper les gaz, on va balancer la dérive côté gauche ou côté droit, et on va faire ce qu'on appelle un renversement. On va redescendre vertical, et on va tirer très doucement sur la profondeur pour revenir dans un sens horizontal positif. Voilà. Et bien après, vous avez des combinaisons où vous pouvez activer plusieurs commandes à la fois, à savoir que il y a un certain moment, si vous voulez faire, mettons, une avalanche ou un déclenché, et bien vous allez activer la profondeur, la dérive, les ailerons, en manipulant les gaz, plein gaz, ou pour profiter du couple moteur et d'en faire exécuter à l'avion des figures que un réel a même de la peine à reprocher, notamment le torque roll, pour ne citer que ça. Il y a pratiquement qu'un seul avion qui est capable de faire un réel. Il ne faut pas oublier, il faut avoir un kilo cheval. Si un avion pèse 500 kilos, il faut 500 chevaux. Eh bien, ça se vérifie en modèle réduit, où là, vous mettez un avion à la verticale, moteur évidemment avec activé, et l'avion reste immobile et tourne sur son axe longitudinal. Tout le monde ne le fait pas, parce qu'il y a une certaine adresse et une certaine maniabilité à acquérir. Eh bien, la finalité, c'est arriver à avoir des jeunes comme celui que j'ai eu le plaisir de former, et qui a 26 ans, et qui est aujourd'hui pilote de Rafale à l'Ambioué. Voilà à quoi on arrive avec modèle réduit.
Et c'est ça va être le début d'une... C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est une partie du modélisme où on peut conduire sur quelque chose de professionnel, une vraie vie professionnelle à partir d'une petite passion au départ.
Mais tout à fait, tout à fait. Et puis, c'est pas parce qu'on est pilote de grandeur qu'on est capable de piloter un modèle réduit. A contrario, hein. Alors évidemment, on connaît tous les principes. Oui, il n'y a pas de problème. Sûr, les principes, c'est les mêmes. Hein. Oui. Mais j'ai eu le plaisir, mettons, de mettre les doigts à l'étrier à deux pilotes de grandeur, des pilotes fret et Air France. Mm-hmm. Et bien, le phénomène qui ne se produit pas en avion grandeur, c'est que vous êtes assis dans un siège, devant vous, vous avez des magnifiques écrans qui vous disent tout ce que fait l'avion, tout ce qui devient, qu'il y a des capteurs de partout, oui, pilote automatique, tout le reste. Quand un modèle est réduit, lorsque le modèle est réduit, il fuit. Si vous envoyez la dérive à droite, l'avion va aller vers la droite. Oui. Mais imaginez que l'avion, mais là vous faites un tour, mettons par la gauche, et l'avion revient vers vous. Mais lorsque l'avion revient vers vous,
Il faut inverser.
La direction est inversée.
Il faut faire attention.
Les ailerons sont inversés. Alors il y a des méthodes pour apprendre justement à piloter assez facilement. Et lorsque vous passez sur le dos, c'est pire. Parce que là, sur le dos, c'est la profondeur qui est inversée. Parce que si vous êtes à 100 mètres sol ou 150 mètres sol, vous tirez sur la profondeur, il va descendre, c'est évident.
C'est sûr.
Le plancher des vaches va se rapprocher assez vite. Mais si vous êtes, mettons, à 5 mètres sol et que vous tirez sur la profondeur, c'est un avion à refaire. Hein.
C'est ça.
Ou alors avoir le chéquier et passer chez le marchand.
Et
pour vous parler de notre volume d'évolution, on est sur le terrain de Saint-Vincent-Tyros. On a une chance inouïe, c'est que la commune... Le fameux terrain de l'hippodrome. Il y a eu d'ailleurs en 1930, des années 30, un hippodrome sur ce terrain, qui a servi à Léalat pour un terrain d'entraînement hélico, jusqu'à la guerre de 40-45, où il y a même des avions américains qui ont été stationnés sur ce terrain. Et en 89, la commune a confié le terrain à deux associations, à savoir l'aéromodélisme et le Baltrap. Alors évidemment, on ne vole pas avec les fusils qui tonnent sur les pigeons d'argile. On va séparer les deux activités pour des raisons de qualité, de tranquillité d'esprit. Ce serait dommage de casser un avion à cause de ça. Et puis, même un tireur, ça le dérange qu'il y ait un avion qui passera à travers le champ de tir. On sépare les activités. Le champ de tir, ils sont très sympas. Ils nous avertissent quand ils font l'entraînement. Ils font 3-4 contre-coups par an. Tout le restant du temps, c'est le modélisme qui en profite.
C'est ça, oui. Non, mais le site est sympa. Alors, j'ai un œil suis sur le site internet, acetiros.wixsite.com. Et je dis ça parce que, effectivement, toutes les informations qu'on vous donne et puis bien d'autres sont dessus. Mais il y a aussi une chouette vidéo de présentation qui est à la page d'accueil que j'ai regardée tout à l'heure et on voit bien, justement, vu de drone, je suppose, on voit
tout
bien le site d'altitude. C'est bien expliqué, tout ça. Alors, franchement, je vous conseille d'aller sur le site où vous verrez que cette vidéo est vraiment sympa, je trouve. Elle est pas mal.
Oui, on a eu la chance d'avoir une plateforme qui fait quand même 970 mètres de long sur 110 mètres de large et sur laquelle se trouve une piste utilisable par les petits avions avec des toutes petites roues qui fait 320 mètres de long sur 30 mètres de large. 35 mètres. Donc, elle est entretenue, c'est nous qui entretenons toute la partie aéronautique, et la commune nous aide quand on fait des meetings, et on va en parler, si on peut dire, dans la suite de notre entretien. On a plusieurs animations dans l'année, à savoir dans quelques temps, au début du mois de mai, on va faire passer les épreuves des ailes, des brevets, les qualifications de pilotes à tous les membres du club qui souhaitent le faire, qui sont arrivés au niveau de pouvoir prétendre à ces qualifications, parce qu'on ne pilote pas chez nous un avion n'importe comment, évidemment. Il n'y a pas d'obligation, on peut très bien rester en loisir, mais ça va devenir rapidement très triste et très terne, parce que si on ne sait pas faire un petit peu de zigoui avec une machine, je ne dirais pas qu'on s'ennuie, mais faire des rondes dans l'eau, tout le monde peut le faire.
Oui, c'est ça. Voilà, c'était Sauvage avec la chorale des CMR qu'on avait reçu ici. On va leur faire un petit coucou parce que c'est nos voisins. Alors on est de retour avec Claude, on a des choses à raconter, notamment, on a parlé pas mal de formation, la partie technique, etc. Mais aussi, le club, il a des événements au cours de l'année, dont certains sont un peu connus quand même par la Viture Rossaise, je crois.
Oui, tout à fait, tout à fait. Et puis, nous sommes très, très aidés par la commune de Tyros et même la Max, Et il faut bien reconnaître, il faut rendre à César ce qui est à César. Et la commune nous aide notamment pour le meeting que l'on tient tous les ans, qui maintenant, traditionnellement, se fait le dernier week-end de septembre. Ça sera cette année le 27 et le 28, avec des gros avions qui viennent quasiment de toute la France, avec entre 50 et 80 pilotes, donc il y a à peu près, on va dire, le double de machines. Et il y a de tout. Il y a du planeur, du motoplaneur, de l'avion moteur, du réacteur. C'est assez spectaculaire, des puces au réacteur. c'est l'une des rares meetings. Et puis en plus, nous faisons une démonstration d'avion en grandeur, avec les règles qui s'imposent sur l'espace aérien, où pendant un créneau de 20 minutes, un avion grandeur vient exprimer de faire de la voltige réelle. Alors tout à l'heure, nous avions, je vous ai fait sourire, Jean-Philippe, en parlant de l'air doudou,
Kezako. Ah oui, c'est vrai, mais oui.
Kezako,
oui.
L'air doudou.
Vous avez pensé, oh oui, l'air doudou, ça c'est pas mal. Ça.
Et nous avons une autre spécialité que nous avons innovée à Nivol, à Styros, à savoir le largage de bonbons parachutistes.
Ah oui.
Donc je vais vous en parler
d'accord,
un petit peu.
Allez-y.
Alors l'air doudou, c'est quoi? Eh bien, simplement, c'est qu'on invite les plus petits, on ne va pas les faire piloter, ils ont 2 ans, 3 ans, ils savent à peine marcher, mais alors, par contre, ils sont très attirés par tout ce qui vole. Et on le voit à travers les mamans et les papas qui les portent dans leurs bras, quand les enfants tendent les bras vers les avions qui sont en l'air. Eh bien, pour les faire participer, on n'a rien trouvé de mieux que de prendre un avion un peu particulier, genre un pipère. On fait venir les enfants sur l'aile de départ. Les enfants mettent leur doudou à bord de l'avion. Voilà. C'est eux-mêmes qui le font.
Oui, oui.
Il y en a une dizaine, une douzaine, une quinzaine. Quand l'avion est plein à craquer, on ferme les écoutilles. Et nous voilà sur la piste. L'avion va voler pendant une paire de minutes en faisant des tours dans l'eau. On ne fait pas de risque de voltige. Et lorsque l'avion revient, qu'il est au sol, qu'il a atterri, à ce moment-là, le petit gamin est tout heureux. Alors au départ, il y a quelques réticents, ne vous inquiétez pas, parce qu'il y en a certains qui ne veulent pas se séparer de leur doudou.
Ah,
hein.
Ça, le doudou.
Ah non, c'est sacré. Trop important. Oui. Et lorsqu'il revient, le doudou, et que le doudou a fait une partie de vol dans son baptême de l'air, je ne vous dis pas le plaisir que le gamin, il a, d'une part, de retrouver son doudou, et de recevoir le diplôme, le vrai diplôme qu'on leur délivre, comme quoi le doudou a volé, a fait son baptême de l'air à bord de tel avion, avec tel pilote, à l'occasion de cet événement.
Ah ouais.
Et puis, pour suivre, et pour finaliser un petit peu les peu plus grands, on va dire là, on fait du largage de bonbons parachutistes. Donc, c'est le même type d'avion, il y a une soute dans laquelle on charge des bonbons de toutes sortes, et c'est organisé de telle manière à ce qu'il n'y ait pas de risque ni pour les enfants, ni pour les avions, évidemment. Et un avion vient à 100, 120, 150 mètres de hauteur, et à un endroit déterminé, on lui fait larguer cette charge de bonbons. Et à ce moment-là, il y a le chef de vol qui abaisse sa casquette, parce que ce chef de vol, il a une particularité. Si les enfants commencent à courir avant que la casquette soit descendue, mon cher Jean-Philippe, eh bien, il fait remonter les bonbons à l'avion.
Aïe, aïe, aïe.
Non, je plaisante. Mais pour vous donner une ordre d'idée, l'année passée, lorsqu'on a fait ces 3 largages, eh bien, on avait à peu près 300 enfants qui couraient après les bonbons sur le tarmac. Eh bien, peu ou prou, je pense que c'est ça qui fait notre réputation à l'Aéronautique Club de Tyrossé. Et c'est le plaisir qu'on fait aux enfants qui, quand même, quand ils sont plus grands, qu'ils ont 9, à partir de 9 ans, 10 ans, 11 ans et au-delà, jusqu'à 15 ans, ils se rappellent qu'il y avait un avion et ils voudraient peut-être apprendre à le piloter.
Et voilà, c'est ça.
Et c'est ce qui explique peut-être le nombre de jeunes que nous avons aujourd'hui au club.
C'est ça. Mais ça, c'est riche idée, ça, je trouve. Le doudou, là, ça, je le garde, ça, là. Le vol, ouais, c'est pas mal.
Et
ça.
Comme second événement, eh bien, en préalable, on participe aux fêtes de Tyrosse. Alors jusqu'à maintenant, nous faisions un défilé avec les gens du club, avec une quinzaine d'avions, de machines. C'était pas mal. Mais cette année, nous ne pourrons pas le faire pour des raisons d'effectifs. Disons, l'encadrement n'est pas disponible parce qu'il y a encore des gens qui travaillent, des modélistes. Et donc, il faut quand même être représentatif. Par contre, le jeudi qui précède la fête de Tyrosse, il y a une initiation qui se fait au terrain. Et là, je voulais en venir à ce terme-là. Si qu'un auditeur, jeune ou moins jeune, ça va de 7 à 97 ans.
Ça passe.
Mais par contre, ceux de 97 ans accompagnés par leurs parents.
Oui, il vaut mieux.
Voilà. Non, on veut apprendre à s'initier, veut s'initier à l'aéromodélisme. Il faut d'une part aller taper simplement sur Internet un moteur de recherche aéromodélisme Club Tyrossé.
Voilà.
Vous allez nous trouver à tous les coups.
Oui.
Et s'il y a besoin, vous allez récupérer le téléphone du président ou le mien. Et à ce moment-là, vous prenez contact et on vous dira à quel moment privilégier venir vous initier. Soit en vol et sur simulateur. Généralement, c'est le mercredi après-midi qui est réservé aux débutants, adultes ou enfants.
Oui.
Le samedi après-midi, dimanche après-midi et souvent, il y a aussi le lundi maintenant. Voilà. Après, les autres jours, on peut toujours prendre rendez-vous, mais ça, on en disposera au moment du contact téléphonique préalable.
Oui, tout à fait. Alors, et puis, on vous retrouve chaque année au Forum des associations de Tyrosse. Alors, ça, c'est immanquable. Vous avez un beau stand avec des beaux avions, une belle démo.
Oui, tout à fait. Et j'ai le plaisir même d'avoir l'autorisation de faire rouler au sol un avion en réaction qui est connu. C'est mon Scorpion, que vous me disiez tout à l'heure, ça ressemble à un Alpha-Jet.
Oui,
c'est un petit peu le même type de machine équipée avec un réacteur. Alors, on y va au sol tranquillement, bien encadré, de telle manière à ne blesser personne et ne brûler personne, parce qu'il ne faut pas oublier qu'un réacteur derrière, c'est 700, oui, voilà, ouais. C'est 730 degrés qui sortent de la tuyère, avec une pression qui va de 0,5 à 18 kg. Je veux dire, à 18 kg, lorsqu'on met le moteur plein tube, ça pousse hardiment.
On peut faire les brochettes, hein, les merguez, c'est peut-être pour les sandwichs, je ne sais pas.
Elles vont peut-être avoir le goût de kérosène, mon cher Jean-Philippe.
C'est dommage. Alors, c'est toujours la fougère. Hein,
Tout à fait. En principe, ça passera toujours là.
Ça sera fini les travaux, d'ailleurs, je ne sais pas trop où ça en est. Les travaux.
Je pense que là, ça devrait être bon cette année.
Ok. Bon, ben, on se donne rendez-vous, donc, c'est quand le Forum des associations en septembre, hein, c'est avant le meeting.
Début septembre, c'est le premier dimanche de septembre, et puis le meeting, 27 et 28.
Voilà. Et votre prochaine échéance, la plus rapide, c'est quoi, le plus proche? Vous avez une porte ouverte?
Début mai. Je pense que c'est le 4 mai, si je ne me trompe pas, le dimanche 4 mai, où c'est une journée porte ouverte, où vous pourrez, d'une part, venir vous initier et nous voir évoluer.
Voilà, donc à l'hippodrome.
Tout à fait.
Voilà, très bien. Ben, écoutez, merci beaucoup Claude de partager votre passion, parce qu'on l'a bien senti. Et on sait que, voilà, on sait, si vous voulez vous envoyer à l'air, c'est à l'hippodrome.
Façon de parler. Voilà, façon de parler. On est tout à fait d'accord.
Voilà. Ouais, merci beaucoup.
Merci Jean-Philippe.
Merci.